On va parler de méditation pleine conscience. Pourquoi on voulait en parler ce matin? Parce qu'on a appris qu'elle est en train de s'installer dans l'enseignement de la médecine. Après l'Université de Montréal, la faculté de médecine de l'Université McGill l'intègre à partir de cette session-ci à son programme pour les étudiants de troisième année. Alors, pour parler de ça, justement, on a le docteur Hugues Cormier. Bonjour.
Bonjour.
Qui, lui, travaille à bien faire connaître cette pratique-là à l'Université de Montréal auprès des étudiants.
Auprès des étudiants de médecine depuis quelques années. Puis aussi, on a avec le centre de santé de l'université, on veut l'offrir à toute la population étudiante.
Ouais. Aussi deux praticiens, on pourrait dire, de la méditation. Josée Blanchette, bonjour.
Bonjour Catherine.
Journaliste qu'on connaît bien, chroniqueuse au Devoir et adepte de cette forme de méditation depuis maintenant.
Ça fait 35 ans que je m'intéresse à la méditation, aux méditations bouddhistes. Mm-hmm. Principalement.
Et Pascal Auclair, bonjour.
Bonjour.
Qui, lui, est un membre fondateur de la Voie boréale qui propose des retraites de méditation. Vous êtes carrément, vous, dedans, là, enseignant de méditation pleine conscience. Alors, je vous demande à vous la définition de base.
Alors, la pleine conscience, c'est une attention qui est d'une un petit peu plus grande qualité que notre attention habituelle, je dirais, un peu plus superficielle. Alors, une attention de plus grande qualité, puis aussi sans jugement, non jugeante. Mm. Alors, c'est une attention qu'on pourrait dire curieuse.
Bon, c'est intéressant parce que je vous écoute, puis pour moi, c'est presque un idéal. Je me dis, quelqu'un qui fait la job que je fais, normalement, devrait faire ça. Une attention curieuse et sans jugement.
Mm-hmm.
Oui, ça se peut, ça? Ouais. D'accord. Alors, je vais essayer d'être en pleine conscience. C'est un idéal.
On tend vers ça.
Alors, auriez-vous fait à peu près la même définition, Hugues Cormier?
Oui, avec aussi la notion que c'est délibéré. Donc, on délibérément décide de porter attention avec une qualité particulière et on essaie de se libérer autant que faire se peut de l'étiquetage, de vouloir changer ce qui est, se faire un ami de l'instant présent. C'est un talent naturel que tout être humain a en lui. La méditation, c'est juste que c'est hypotrophié dans notre société et que ce qu'on vise, chacun d'entre nous, je pense que c'est d'un peu redonner un peu plus de place à l'être et de donner peut-être un peu de congé au faire. On est tellement pris dans le faire, qu'on hypotrophie cette grande richesse d'aller visiter en soi-même nos forces, nos idées. Et en plus, on ne peut pas mal méditer. Il faut que les gens qui écoutent ne se disent pas « Bon, c'est une chose de plus qu'il faut falloir que j'apprenne. » C'est tout simplement de tenter de porter attention à l'instant présent et se rendre compte que pendant 5 minutes, on est parti avec le courant et en prendre conscience. Et tenter de ramener doucement, gentiment son attention vers l'instant présent.
Donc, c'est pas nécessairement arrêter tout ce qu'on fait, sortir un tapis, mettre du patchouli dans l'air, s'arrêter pour 1h30.
On peut se brosser les dents en pleine conscience, prendre sa douche, etc.
Mais José, vous aimez consacrer du temps, vous, carrément. Là, c'est une discipline à laquelle vous consacrez du temps.
Je consacre du temps quand je peux. Moi, je dirais que c'est un outil dans mon coffre à outils. J'y reviens. OK, j'oublie. Il y a des fois, j'ai été des années sans méditer, mais j'ai toujours gardé mon coussin près de moi, dans mon bureau, dans ma chambre. Pour moi, c'est important d'avoir un lieu parce que je trouve que ça me rappelle, ah oui, ce lieu-là existe. Mais je l'ai fait ce matin dans mon auto. J'étais pas sur mon coussin. J'ai raté la sortie du pont parce que j'étais tellement prise avec les infos. J'étais tellement angoissée, tellement énervée au bord des larmes. J'ai raté l'entrée du pont et là, je me suis ramassée à Longueuil. J'ai dit, OK, là, t'éteins tout, puis tu fais du balayage corporel, puis tu te rends à Radio-Canada. Puis là, finalement, j'ai eu comme un moment d'épiphanie sur le pont Jacques-Cartier qui aurait pu être très laid à ce moment-là. Et je l'ai trouvé tellement beau sous la neige parce que j'étais totalement présente.
Ouais.
Et c'est ces moments-là qui font qu'on se dit, waouh, ça, c'est des états de grâce parce que vraiment, ce matin, il n'y avait rien qui annonçait ça.
Et ça vous rend plus forte?
Non, mais je pense qu'on apprend à couper le son. Puis je pense, Hugues disait ça tout à l'heure, à un moment donné, il faut, en tout cas, peut-être que je suis une nature un peu trop sensible, mais il faut couper le bruit autour de soi. Puis la méditation nous aide à revenir à cette mécanique-là. Je pense que vous serez d'accord, là, de revenir à, OK, mes sensations, OK, là, je suis pas bien, je suis angoissée, je me sens pas bien. Est-ce que ça va m'aider encore d'écouter une autre demi-heure d'infos qui vont encore dire les mêmes choses? Non.
Alors, je veux bien, mais on parle assez, en ce moment, dans la société, du danger de l'individu. l'individualisme, si on incite tout le monde comme ça à couper le son, à se refermer sur... Est-ce qu'il y a ça dans la méditation à un moment donné, se concentrer tellement sur soi, sur ses sensations?
Au contraire, ouais. on est complètement branché sur ce qui est là. Ouais. On n'est pas chacun son nez sur son iPhone. Là. Moi, je suis complètement présente ici. Là. Je sens les gens, je vous sens. Je suis pas ailleurs. Alors non, au contraire, on est beaucoup plus en harmonie avec notre environnement, je trouve.
Ça, c'est une nuance importante, parce que ce qu'on entendait avant, c'était « je veux être dans ma bulle ». C'est pas ça, la méditation.
Le docteur Cormier disait que l'attention est délibérée. Alors, on utilise un certain discernement. On voit où est-ce que je dois mettre l'attention, où est-ce que je veux mettre l'attention, plutôt qu'y aller de façon habituelle. Mm-hmm. Comme par exemple, moi, j'aurais pu rester aussi branché sur les infos toute la matinée, là. Mais il y a un moment où j'utilise mon discernement aussi, puis je me dis « OK, Pascal, t'as l'info. 12 personnes ont été assassinées. Maintenant, ferme la radio, puis sois avec ça, tu sais. » Puis donc l'idée c'est de me centrer pour que j'arrive ici puis être que je sois disponible. Ouais. C'est la même chose que vous faites aussi. Vous avez toutes ces informations là qui passent. Puis là vous devez vous centrer.
La disponibilité, j'aime beaucoup ce mot-là. Hugues Cormier, maintenant si on ramène ça dans le champ de la santé, comment on peut imaginer que ça puisse aider soit un étudiant en médecine, soit carrément un praticien dans le système de la santé? On doit y croire puisque ça s'implante, je le disais tout à l'heure, là, dans les facultés de médecine en ce moment.
Alors, la condition humaine, c'est tout le monde qui est sollicité, super sollicité par l'environnement, le terrorisme, les courriels, etc. Alors là, ce sont des outils qu'on a pour se recentrer sur l'être et l'autocompassion. Qui mène à la compassion.
OK, l'autocompassion, qu'est-ce que c'est, ça?
Ben, l'autocompassion, c'est justement d'être à l'écoute de soi. On tend vers ne pas juger, ne pas étiqueter le moment présent. C'est que les psychologues ont fait des études qui montrent que dans notre tête, on passe 80 % du temps souvent à se critiquer soi-même, à dire j'en fais pas assez, je fais pas assez bien, etc., etc. Alors, on essaie de mettre
80 % du temps
plutôt que 20 % à s'auto-congratuler. Ce qui prévaut dans l'esprit des humains, c'est plus...
Le négatif, en fait, dans tous les pensées négatives.
Mais évidemment, en souffrant avec ça, on peut facilement ensuite passer à du négatif envers autrui.
Ouais.
Eh bien, comment arriver à être à l'écoute, être attentif, attentionné à autrui si on n'est pas envers soi-même. Alors, c'est un entraînement mental qui est éprouvé par des siècles. C'est vraiment un phénomène universel, cette capacité de cultiver l'attention, être attentionné à soi-même et à autrui.
Vous auriez tendance à croire à l'intérêt que ça peut présenter pour soit des étudiants en médecine, soit pour des praticiens dans le domaine de la santé.
Ouais. Pour tout le monde.
Mais d'ailleurs, on le voit là, dans le milieu corporatif, militaire, éducatif, hospitalier, thérapeutique.
Mais avec les enfants, je rêve que qu'on fasse la méditation en commençant l'école le matin, que les profs fassent ça 15 minutes avec des enfants, qu'on l'enseigne à l'école. Il y a tellement de problèmes de TDAH et on voit maintenant des enfants qui sont traités avec la méditation, des enfants qui ont des troubles de comportement et avec succès.
Alors, Pascal Auclair, Cormier tout à l'heure disait c'est à la portée de tous.
Oui.
Tout le monde n'a pas la même aptitude ou la même facilité à laisser aller ce qu'il faut laisser aller?
Non, c'est vrai. Il y a des gens qui sont plus portés vers ça, mais alors il y a des technique très, très simple pour revenir au corps, au moment présent. Puis, dans un cours de 8 semaines de réduction du stress, si on va dans un centre de yoga, il y a un cours de méditation, des trucs comme ça. Il y a plein de façons d'apprendre, des façons très simples.
Suzanne Penuel, qui nous écrit de Trois Pistoles, « Quand j'éprouve une douleur physique ou morale, la pleine conscience m'aide à moins souffrir. La douleur ne prend pas toute la place et le reste des sensations ou des pensées peuvent s'installer durablement. » Est-ce que ça a été étudié, le lien entre la pleine conscience et la douleur, avec des malades
la première population de patients en 79 dans un hôpital universitaire à Boston que Jon Kabat-Zinn a... Donc, c'était avec un département de médecine interne. C'était pas en psychologie ou en psychiatrie. Et il y a actuellement 400 à 500 articles scientifiques publiés par année sur les bienfaits du mindfulness, sur la dépression, la prévention des rechutes, le traitement de dépression, anxiété. Et on documente de plus en plus par l'imagerie cérébrale aussi les changements structurels et fonctionnels du cerveau.
Donc, pour ceux qui ont besoin d'être rassurés par la science, là, comme je vous disais tout à l'heure, des fois ça prend ça, les preuves sont maintenant là aussi. Merci tous les trois d'être venus parler de ça ce matin, de grands tourments, ça fait du bien. Alors, Pascal Auclair, Pierre, membre fondateur de La Voix boréale, enseignant de méditation en pleine conscience, Josée Blanchette, chroniqueuse et adepte de méditation, et le docteur Hugues Cormier, psychiatre à la clinique des troubles anxieux de l'humeur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et aussi professeur au département de psychiatrie. Merci beaucoup tous les trois.
Merci.
Merci Catherine.